Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine que Radio Présence consacre chaque semaine à l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, la fin du mois de novembre va être très riche en événements musicaux divers et variés. Lors de notre précédent numéro, nous avons présenté la 8e édition du festival Musique au Palais, qui a lieu à Toulouse, au Palais Niel, le week-end prochain, les 25 et 26 novembre, avec une programmation dédiée à la musique et aux compositeurs de la Belle Époque. La veille, le vendredi 24, est donnée la première de la très attendue nouvelle production de Boris Godounov à l'Opéra National du Capitole, où le chef-d'œuvre de Moussorgski fait l'objet de 5 représentations jusqu'au 3 décembre. Voilà une partie de l'agenda de la semaine à venir. Deux invités dans cette émission, tout d'abord le fidèle Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge est accompagné aujourd'hui de son camarade Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Sans plus attendre, nous allons revenir tous les trois sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux, très heureux de vous voir réunis dans cette émission, il y avait longtemps.
En effet.
Nous allons d'abord revenir sur un concert auquel nous avons assisté le vendredi 10 novembre à la Halle aux Grains. Il était présenté par la Saison des Grands Interprètes qui avait invité l'une des stars de la scène baroque actuelle, le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, accompagné par l'ensemble Pomodoro. Alors je ne sais pas d'ailleurs s'il faut parler de concert parce que j'ai l'impression d'avoir assisté au moins autant à un spectacle. Serge, qu'est-ce que vous en pensez ?
Absolument, c'était un véritable spectacle, un nouveau concept de théâtre musical qui était d'ailleurs intitulé Beyond, ce qui signifie au-delà. Tout est dans le titre. C'était vraiment un spectacle autant visuel qu'auditif, que musical, avec une entrée en scène du contre-ténor revêtu d'une mystérieuse cape sombre. Et c'était le début de la représentation, donc avec toute une série d'airs baroques, donc même d'époque de la Renaissance. Ça commençait par du Monteverdi avec un extrait du Couronnement de Poppée. Et puis ça s'est achevé par un air d'un compositeur que l'on n'entend pas très souvent, un certain Sebastiano Moratelli, avec une très belle interprétation. Alors bon, il faut parler d'abord peut-être de la voix du contre-ténor. C'était vraiment un timbre lumineux, une agilité complètement naturelle, une vocalisation très à l'aise. Et puis, ce qui m'a surtout attiré, intéressé, c'était la recherche permanente de l'expression. Et il recherchait les affects avant de rechercher la beauté, la pure beauté vocale. Vraiment un concert dans lequel il s'implique complètement, à la fois physiquement et musicalement, vocalement. Évidemment, on sait qu'il est en même temps champion de breakdance, donc on n'y a pas échappé. Il y a eu quelques figures de breakdance, mais sans ostentation. Il n'en faisait pas...
Oui, il n'a pas fait que ça non plus. Voilà,
donc, non, bien sûr.
Parce
bien
que
sûr.
Je sais qu'il y a des gens que ça peut déranger.
Oui, donc,
Les puristes peuvent être dérangés par le fait, effectivement, qu'ils distillent de ci, de là quelques figures de breakdance. Bon, moi, j'ai trouvé aussi que ça s'insérait très bien dans l'ensemble.
Oui. C'était pas vraiment... En plus, c'était intégré dans le déroulement des pièces qu'il chantait.
Et ça ne nuit pas non plus à l'expressivité, non, l'expressivité vocale. Parce que ça pourrait effectivement lui coûter en énergie, tout ça.
Ah bah oui, parce que c'est vraiment, on peut dire, c'est une sorte de lutin
bondissant. Mais pas, parce que c'est un véritable athlète.
Ah oui, mais il occupe la totalité du grand plateau. Dieu sait qu'à la Halle aux Grains, c'est un grand plateau.
Ah oui, il y a de la place.
Et vraiment, il n'avait aucun problème à occuper l'ensemble du plateau en s'adressant à tous les spectateurs qui entourent le plateau. Donc vraiment très très bien, avec donc cette succession d'air et de pièces instrumentales, quelques pièces instrumentales, donc qui brossent tout cela, un portrait coloré de ce fameux répertoire du 600, vraiment des beaux extraits choisis, donc avec du Biagio Marini, du Caccini, du Frescobaldi, bon, des noms assez connus, mais par contre l'allemand Johann Caspar Kerl, j'avoue que je ne connaissais pas, Barbara Strozzi, oui, on connaît un peu, Cavalli, oui, bien sûr, puisqu'on dit qu'il a créé l'opéra avant Monteverdi même. puis Pallavicino, Sartorio et un Polonais, je suppose, Adam Jarzewski.
Oui, a priori.
A priori, bon. Et puis alors, quand même, le compositeur que je trouvais peut-être le plus stratégique de la liste, c'était Giovanni Cesare Netti. Avec notamment cet air « Quando più la donna invecchia », c'est-à-dire « Plus la femme vieillit », où là, le chanteur n'hésite pas à chanter ça d'une voix éraillée, complètement laide, vieillie.
C'est... Parce qu'il est très comédien aussi.
Ah hein, oui, oui, absolument.
C'est théâtral ce qu'il fait.
Ça donne envie de le voir dans une production d'opéra.
Oui,
vraiment,
bien sûr.
Vraiment. Donc, très très bien, avec, il faut le souligner quand même, la qualité de l'ensemble instrumental.
Formidable.
Pomodoro, qui est magnifique, hein, qui est souvent dirigé par Maxime Emilianichev. Là, non, c'était la première violon qui était en quelque sorte
le
leader.
Tous les musiciens sont formidables.
Hein. Mais vraiment formidables. 10 musiciens, avec notamment, il faut quand même le mentionner, un guitariste et qui joue en même temps de l'archilute, qui s'appelle Miguel Rincon, et qui a fait un vrai duo avec le contre-ténor, qui était vraiment très émouvant, vraiment très très beau. Hein. Un passage qui a été acclamé d'ailleurs immédiatement par l'ensemble du public. Donc, un beau moment qu'il a achevé par une figure virtuose de breakdance, la fameuse figure qui a probablement un nom, où il est la tête en bas.
Sur une seule main.
Sur une seule main, exactement.
C'était vraiment... C'est un poirier, une seule main.
Oui, oui, voilà. Donc, un très beau moment.
Robert Pénavert, vous l'avez entendu en récital, peut-être pas l'opéra, mais en récital.
J'ai eu un opéra également. Mais voilà, Serge vient de tracer le portrait de ce qu'on appelle, pour moi, un artiste. Voilà, il ne se contente pas de chanter. Et effectivement, quand tu parles d'affect,
oui,
c'est ça. Ah, oui. Derrière chaque note, il y a une intention.
Ah oui, exactement.
Ce n'est pas simplement du son qui fait aussi beau puisse-t-il être. C'est pas du tout ça.
La voix est très belle, très homogène.
En plus, c'est un technicien remarquable.
Ah oui, formidable. Voilà.
Et il a une voix, il a un ambitus très large.
Très large.
Très homogène.
Les graves sont profonds, les aigus sont bien arrondis. Voilà, c'est un artiste extraordinaire.
Un soutien du souffle aussi impressionnant.
Bien sûr, oui.
C'est pour ça que je dis aussi que c'est un athlète, hein, parce que faire tout ce qu'il fait sur scène, sans que ça n'altère la voix.
D'autant qu'il continue de faire des compétitions. Encore
oui.
À vrai dire, je sais pas comment il fait,
mais il a des prix, hein, il a des prix.
Il est passionné parce que ça le passionne, quoi. Je pense qu'il était hors de question pour lui de lâcher le breakdance pour ne faire que de l'opéra ou du récital, hein.
et vice versa.
Revoici Jakub Józef Orliński en action, mais sans les figures de breakdance. Il chante Lunghi dai nostri cor, extrait de la Faretra Smarrita de Sebastiano Morandelli.
Ooh!
L'air Lunghi dai nostri cor, extrait de la Faretra Smarrita, le carquois perdu, sérénade composée par Sebastiano Moratelli en 1690, que chantait ici Jakub Józef Orliński, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro, comme lors de son concert du 10 novembre. On change de registre maintenant avec le récital donné par la pianiste Anne Bozek à Toulouse, à l'hôtel d'Assesa, vendredi et dimanche dernier. C'était dans le cadre du festival Déoda de Sévrac, une musicienne qu'on connaît bien et qu'on apprécie à Toulouse, que ce soit pour ses duos avec Sandrine Tilly, la flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, ou pour les nombreuses productions qu'elle a dirigées à l'Opéra National du Capitole. Vendredi, elle a joué un joli programme Debussy, Albéni, Sévrac et Blanche Selva, auquel elle avait donné le titre « La présence lointaine ». Serge, c'était vraiment un programme qui sortait des sentiers battus.
Ah oui, tout à fait. Il faut quand même repréciser peut-être que le Festival Déoda de Sévérac a été créé en 1989 à Saint-Félix-du-Lauragais, qui était évidemment la ville de naissance de Déoda, et que son directeur actuel, Jean-Jacques Cuben, qui était d'ailleurs présent, a succédé au fondateur qui n'était autre que le petit-fils de Déoda et qui est décédé prématurément. Donc c'est Jean-Jacques Cuben qui maintenant s'occupe de ce festival qui a deux moments, une estivale de juin à la mi-août et puis une automnale en novembre à Toulouse. Donc c'était dans le cadre de cette automnale que Jean-Jacques Cuben avait donné carte blanche autour du compositeur Déoda de Sévérac à Anne Bozek, qui est une très grande musicienne, et elle l'a prouvé une fois de plus. Alors, je voudrais quand même préciser qu'elle a réalisé, avec une intelligence incroyable, comment dire, une organisation de ce récital en quatre étapes, quatre épisodes, très bien choisis, avec chaque fois un thème. Donc, c'était vraiment un moment formidable et qu'elle a assumé vraiment avec son talent, évidemment sa technique irréprochable, mais surtout son pouvoir expressif et la finesse avec laquelle elle est très à l'aise dans ce répertoire.
Elle est très à l'aise dans ce répertoire de musique française de la fin du 19e, début 20e.
Exactement, exactement. Notamment, la première séquence était fondée sur l'amitié qui a uni Déoda de Sévérac et Isaac Albéniz. Donc, il y avait une pièce d'Albéniz et une pièce de Déoda, avec comme fil rouge la suite Cerdagne de Déoda de Sévérac.
Oui, qui est sans doute son œuvre la plus connue, la plus jouée.
Voilà, la plus jouée. Vraiment de très belles alternances avec notamment une pièce de Blanche Selva, que j'avoue je ne connaissais pas bien, qui était pianiste.
Moi, je la connaissais en tant que pianiste, puisque c'est elle qui a créé beaucoup d'œuvres de Sévérac.
Oui, exactement. Très proche. Ouais, exactement. Qui a même achevé certaines œuvres Déoda de Sévérac, auxquelles elle reprochait de ne pas terminer certaines de ses pièces. Donc, on a eu droit, et c'était la deuxième étape, à Cloche au soleil de Blanche Selva, avec évidemment Cloche à travers les feuilles de Debussy, et puis une œuvre de Déoda de Sévérac, encore une fois, un extrait de Cerdagne, et une autre œuvre qui s'appelle Coin de cimetière au printemps.
Alors des œuvres qui étaient toutes très inspirées par la nature.
Hein. Ah oui, absolument, absolument. Et surtout, la troisième époque, en quelque sorte, le troisième épisode, avec également une relation avec le monde de la chanson. Et donc on a eu droit à une pièce de Debussy, la pièce de Déoda de Sévérac qu'a terminé d'ailleurs Blanche Selva, qui s'appelle La Vasque aux Colombes, et puis le fameux Jardin sous la pluie de Claude Debussy avec la chanson Nous n'irons plus au bois, dont on a appris, si on ne le savait pas, que c'était une chanson avec
des allusions grivoises.
Des allusions aux maisons de prostitution de l'époque.
Aux prostituées dans le parc de Versailles. Alors il y a deux versions, où elles se cachaient, elles étaient derrière les arbres dans le parc de Versailles. Et il y a aussi les maisons de tolérance, comme on disait déjà ça à l'époque, dont l'entrée était surmontée d'une feuille de laurier. Et indiquait donc ce qui se passait dans ces maisons. Et quand elles ont été fermées, apparemment à la demande de Madame de Maton, qui était quand même quelqu'un de très pieux et qui ne voulait pas de ça dans le royaume de France, on n'ira plus au bois, les lauriers sont coupés.
Les lauriers sont coupés, voilà. On retrouve l'histoire, la grande histoire en quelque sorte.
Et c'était passionnant, tu disais Anne de Bozek entre les œuvres. Parce que,
sa présentation était parfaitement au point, sans note, elle faisait ça avec une aisance
absolue. Elle s'exprime très très bien au public.
Hein. Ah non, mais vraiment.
C'est quelqu'un d'extrêmement érudit, cultivé aussi.
Et très pédagogue. Oui. Très pédagogue. Et avec donc à la fin plusieurs épisodes, encore une fois. Notamment, moi j'ai beaucoup aimé Les muletiers devant le Christ de Livia, Complainte. Voilà quel est le titre. Et vraiment, elle a donné l'impression que C'était un orchestre qui jouait et non pas un simple piano. Avec la soirée d'engrenade, rutilante comme c'est
comme
possible.
Elle doit l'être, comme elle doit
l'être. Et oui, et puis tout s'est terminé avec le retour des muletiers de Déodat de Séverac. Mais elle a même joué en bis. Encore un extrait de Debussy, Pagode, qui est la première des pièces d'estampe, qui complétait parfaitement ce récital. Vraiment magnifique. Dans cette salle, Clément Cizor, de l'hôtel de César.
Ah, oui.
Et alors, ce qui était symbolique, c'est qu'elle était au-dessous de la statue de Clément Cizor, justement. Donc, c'était tout un symbole. Vraiment un très bon moment. Là,
et
aussi.
Concernant Debussy et Séverac, hein, Debussy admirait Séverac,
aimait
sa musique. Bon, l'admiration était réciproque, bien sûr. Voici ce que Debussy disait de la musique de Séverac.
Oui, oui, oui.
Il fait de la musique qui sent bon,
exactement,
et l'on y respire à plein cœur.
Oui, oui.
C'est joliment dit.
Ah, oui, oui. Et quand on connaît le caractère de Debussy vis-à-vis de ses collègues compositeurs,
beaucoup plus cassant que ça.
Il était quelquefois...
Il n'est pas le compliment facile, quand même.
Ah non, 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 non.
Voilà, c'était un très très beau moment à la fois de musique et on a appris bien des choses. Je n'ai pas d'extrait à vous proposer où Anne Le Bozec joue une des pièces d'un des compositeurs qu'elle avait mis au programme de ses concerts à l'hôtel d'Assesa. Mais pour vous faire entendre son piano, nous allons l'écouter interpréter Les Sylvains, une œuvre de Cécile Chaminade, compositrice contemporaine de Debussy, Albéniz et Séverac. Les Sylvains, pièce de Cécile Chaminade, interprétée par Anne Le Bozec, qu'on reverra à l'Opéra National du Capitole lors de la journée Mozart le 2 mars prochain. Et c'est justement à l'Opéra National du Capitole, dimanche après-midi, que le grand ténor américain Michael Fabiano s'est produit en récital. Accompagné par le pianiste Martin Katz, il a présenté un programme de mélodies françaises, on y reste en France, de Gounod, Duparc et Liszt, parce que Liszt a composé des mélodies sur des poèmes de Victor Hugo. Robert Pennavert était dans la salle pour assister à cette première apparition de Michael Fabiano à Toulouse, forcément très attendu. Est-ce que vous avez passé un bon moment à son écoute, Robert ?
Oui, bien sûr. Alors, pardon, Eric, mais je suis obligé de vous contredire. Mais
allez-y, contredisez-moi.
Il est déjà venu à Toulouse. Il est venu il y a 2 ou 3 ans, au moment des reprises de Carmen. Il a assuré un Don José.
Ah parce oui, que c'est, en remplacement,
c'était,
oui.
C'était ces fameuses reprises de Carmen, un peu post-Covid, voilà, un peu compliqué. Il y a eu 8 représentations avec 8 distributions différentes. Et donc, à un moment, Christophe Gristy, le directeur du Capitole, se trouvait sans Don José. Donc, heureusement, il a quand même quelques 06 dans sa poche. Et il l'a appelé, il y a dit à Michael Fabiano, qui a évidemment Don José dans son répertoire, hein, il y a dit, voilà, ben, j'ai besoin d'un Don José après-demain, est-ce que vous êtes disponible? Il était disponible et il est venu entre deux avions pour faire Don José, voilà. Et bon, bien évidemment, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont discuté ensemble pour le faire revenir dans le cadre d'un récital, puisque dont les distributions, évidemment, étaient déjà réunies pour l'avenir. Voilà, par rapport à cette date-là. Donc, Michael Fabiano, c'est un Italo-Américain, hein, il est jeune, il n'y a pas 40 ans encore, et vraiment, il chante sur toutes les plus grandes scènes du monde, le Metropolitan surtout, mais Milan, Vienne, Londres, Paris également. Voilà, il fait partie des top 10 mondiaux en termes de tessiture ténorisante. Bon, mais il a une envie, il depuis longtemps, qui le taraude, c'est premièrement son amour de la langue française. Lui, il estime que c'est une langue très facile à chanter. Si elle est facile pour lui, il faut l'écouter. Et voilà, c'est tout simplement. En plus, il parle très bien le français. Et il a une passion sans borne pour Henri Duparc.
Ah, pour Duparc. Ah, bah oui. Mais on peut le comprendre.
On peut le comprendre, oui. Bien évidemment. Oui. Voilà. Et donc, il avait dit à Christophe Gristy, mais en fait, finalement, j'aimerais revenir avec un programme que je n'aurais chanté nulle part ailleurs. C'est un programme de mélodies françaises. Voilà. Et bon, évidemment, nous avons donc eu une première mondiale. Voilà. Et ça s'est évidemment très, très bien passé. Donc, la première partie était consacrée à des mélodies de Charles Gounod et de Franz Liszt, comme vous l'avez dit. Effectivement, Franz Liszt a écrit une série de mélodies sur des textes de Victor Hugo. La deuxième partie était entièrement consacrée à Henri Duparc. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, en ce moment, pardon, Michael Fabiano est en Europe, il chante Turandot au Liceo de Barcelone. Voilà. Et je ne dis pas qu'il est venu en voisin.
Mais presque.
Mais bon, c'était peut-être un peu ça. Alors, la première partie de ce récital ne m'a pas complètement ébloui, parce qu'enfin, on le sentait un peu très près des partitions, je veux dire partitions matérielles, papier.
Pas assez libéré de la partition.
Lui, je sais pas, est-ce qu'il avait peur? Est-ce que c'était le stress? Le stress, on le comprend.
Bah,
c'était la première fois qu'il se présentait dans ce répertoire-là. De toute façon, il savait qu'il pouvait compter.
Et en plus, devant des Français. Donc,
Devant des Français, effectivement. Et puis, le public du Capitole
est quand même un public de connaisseurs.
Voilà. Et il était malgré tout pas seul. Il y avait Martin Katz qui était avec lui, qui est un immense accompagnateur, qui a accompagné non seulement...
Ils se connaissent très bien tous les deux.
Marilyn Horne, mais Caballé, Sutherland... Enfin, les plus grands, voilà, c'est simple. Je crois qu'il a 82 ans aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il a un background extraordinaire. Il sait ce que veut dire accompagner, aider, soutenir...
Un chanteur,
voilà. Donc, la première partie, du coup, même le français, la prosodie était peut-être un peu moins nette, et il n'arrivait pas à maîtriser son organe, parce que Michael Fabiano... Il a un rêve, c'est de chanter Othello.
En effet, oui.
Voilà. Alors, je ne sais pas s'il le fera un jour, je l'espère, bien évidemment, pour lui. Mais ça veut dire qu'il a quand même... C'est une voix qui est entre le lyrique et le dramatique aujourd'hui. Il est à cheval entre les deux. Mais ça veut dire que ce n'est pas un ténor léger ni un ténor di grazia, pas du tout. Donc, pour maîtriser un pareil instrument face à des mélodies qui demandent beaucoup, finalement, parfois, de retenue, d'introspection... Au début, c'est vrai qu'il a eu un peu de mal, je le dis comme je l'ai senti. Entracte, il revient, c'était plus le même.
Et puis tu étais sur son terrain de prédilection, parce que c'était
alors,
du Duparc après.
D'abord, ce qui me fait dire ça, c'est que déjà, il n'a plus regardé les partitions.
Mais je pense qu'il était vraiment...
Il était devant le pupitre, et puis il a commencé à interpréter physiquement ses mélodies. Alors là, vraiment, depuis la chanson triste, il en a interprété 12, donc... La chanson triste, et il a terminé avec Fidilé, évidemment. Alors là, de suite, une dynamique dans l'émission, des nuances absolument extraordinaires, le français qui était parfait. Alors, on ne l'a pas reconnu, en
Ben
définitive,
sans doute
voilà.
qu'il se sentait mieux, et les textes et la musique du
Voilà.
parc, il a dû beaucoup, ne serait-ce chanter que sous la douche peut-être. Donc vous voyez,
Voilà, et
je
puis
pense
quand il
qu'il...
parle de Duparc, il dit mon ami Duparc.
C'est incroyable.
Bah, tu sais, Serge, sur
Oui, oui.
le selfie qu'on a publié sur notre site, c'est un selfie qui dure 30 secondes, je crois, et où il annonce sa venue à Toulouse, hein,
Oui.
et où il dit, et j'aurai le plaisir d'interpréter mon ami Duparc.
En plus, Duparc était de Mont-de-Marsan, donc il n'était pas très loin, vous voyez.
Oui,
Il était un peu
oui,
dans
oui.
la région en plus de Duparc. Donc
Oui,
je pense qu'il y a
exactement.
eu quelque chose, là, il y a eu des ondes.
Voilà, et puis il y a eu une troisième partie, à vrai dire peut-être celle que beaucoup attendaient, et on a bien fait d'attendre, et c'est une série de bis entièrement consacrée à de l'opéra.
Ah oui, alors là.
Et pas qu'un bis, et pas que deux, pas trois, mais quatre
Donc
bis.
une
Et
véritable
une
troisième
troisième
partie
partie, oui, absolument.
autonome.
Et également une révérence au répertoire français et au compositeur qu'il adore par-dessus tout, en France du moins, c'est Massenet.
Ah
Voilà.
bien, décidément, quel francophile.
Voilà.
Il va falloir le faire revenir. Hein.
Ah
Oui,
alors,
oui.
il a commencé, puis c'était pas rien du tout. Quand j'ai entendu les premières mesures au piano, je me disais, c'est pas possible, il va pas faire ça. Mais si, si, il a l'air de Jean d'Hérodiade, ne pouvant réprimer les élans de la foi. Bon, ouais. C'est quand même un air qui demande un gros souffle, enfin, qui demande
Largeur
un
vocale,
médium,
hein,
voilà, c'est ça. Hein, bon.
puis
Non,
d'être à
non,
l'aise
mais
avec la
bon,
langue aussi,
et
hein,
sans
ce qui est le
problème.
cas apparemment.
Ensuite, coup de chapeau à Werther. Alors, non pas seulement avec les fameux « Pourquoi me réveiller » du troisième acte, non, 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 non. Il a commencé avec la grande scène du 2. Voilà, là, vous savez, au moment
Oui.
où Charlotte lui fait comprendre que c'est plus possible, qu'elle a donné son amour à Albert, etc., etc. Et puis elle est coquine, Charlotte, parce qu'en définitive, elle lui dit, bon, on se revoit à Noël quand même. Bon, c'est pas très sympa, ça, par rapport à ça, ce pauvre Werther. Et donc, c'est ce moment intensément tragique. Il s'adresse à la nature, aux natures, pourquoi m'abandonner, père, père, etc., etc., parce que c'est la nature, c'est Dieu en même temps. Et alors, il nous a fait vivre ce moment, mais à nous arracher des larmes, franchement. Et puis, vocalement, c'était magnifique. Bon, après, donc, le pourquoi me réveiller, bien sûr, qui est de moindre intérêt, mais qu'il a très, très bien chanté. Et puis, il a fini, alors, avec l'air de Manon,
Ah.
l'air de Desgrieux,
Oui.
en fermant les yeux. Alors là, c'était bon. Là, on savait plus où on
Tout le
était,
monde a
quoi.
fondu.
Ben, tout le monde a fondu. D'autant qu'il a chanté ça sur le fil d'un souffle. Et puis alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce chanteur arrive à maîtriser son vibrato jusque dans les demi-teintes les plus subtiles. Ça, c'est vraiment.
Il vous a vraiment gâté, hein. Et je pense que c'est parce qu'il était heureux d'être là, très
Oui,
probablement.
j'imagine.
Bah
Et
oui.
puis, aller sur scène, il est d'une contraction. Et pendant les bis, il s'est adressé au public. Alors, après le premier bis, il repart. Puis, avant de se retrouver derrière le rideau, il se retourne vers le public en faisant le chiffre 2 avec ses doigts. Ça veut dire qu'il avait prévu un autre. Puis après, il revient. Puis, en faisant trois bis. Et puis, pour le quatrième, après, c'est
Bon, ben,
Martin Katz qui, lui,
il va
a fermé le
falloir,
piano,
il va
quoi.
falloir qu'il revienne absolument, Mathieu
Ah oui, non,
Fabiano, mais je
puis
pense que Christophe Grissi doit y penser
il
forcément.
a conquis le public, et puis bon, c'était facile de conquérir le public avec une prestation pareille.
Pour le plaisir, voici un enregistrement de Fidilet, la mélodie composée par Henri Duparc sur un poème de Le Comte de Lisle, chanté ici bien sûr par Michael Fabiano. Fille et mélodie composée par Henri Duparc sur un poème de Lecomte de Lisle chanté par Michael Fabiano, accompagné au piano par Martin Katz. Pour conclure cette première partie d'émission, retour à l'antenne dans quelques secondes avec Serge Chosy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et l'on retrouve donc Serge Chosy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie qui va être largement consacré au grand événement de cette fin novembre, la nouvelle production de Boris Godounov à l'Opéra National du Capitole, où l'œuvre célèbre entre toutes de Moussorgski est donnée du 24 novembre au 3 décembre lors de 5 représentations dans une mise en scène d'Olivier Py, un grand classique et un des chefs-d'œuvre de l'opéra russe que nous n'avions pas vu au Capitole depuis combien d'années, Robert Pénavert ?
Depuis 2005, alors depuis...
18 ans tout de même.
Alors en fait, c'est un opéra qui en France n'est pas souvent donné. Voilà. Alors un peu d'historique, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, hein. C'est un opéra qui a vu sa création au Théâtre du Capitole en 1927. En français, évidemment, c'était avec un baryton qui s'appelait Claudius Rougenet dans le rôle de titre. Ensuite, paradoxalement, à nos jours, cet opéra, à partir de cette création, s'inscrit durablement dans la périodicité, la régularité, de la programmation du Théâtre du Capitole. Et alors, du coup, à cette époque-là, tous les grands Boris français, en français, bien évidemment, se produiront au Capitole. Alors, pour ceux que ça intéresse, je les cite, Vanni Marcou, André Pernet, Hugues Santana, José Beckmans, et jusqu'à, en 1968, Gabriel Baquier.
Baquier, ben oui.
Voilà. Et il a été le dernier à chanter Boris en français. Voilà. Et à cette époque-là, en 68, ben, je l'ai vu. Et donc, la version comprenait l'acte polonais. Oui. Voilà. Et c'était, si je me souviens, c'était Daniel Millet qui chantait Marina. Ouais. Voilà. Entre-temps, le Capitole a reçu les grandes clés de phare russes qui se faisaient entendre dans le monde entier, dont en 1932, une starissime absolument incroyable, le russe Fédor Chaliapine,
alors à l'époque.
Voilà, et ses caprices d'acteur-chanteur. En mars 1932, lorsqu'il a chanté, hein, il n'a voulu continuer la représentation que si la direction du théâtre changeait le chef d'orchestre. Voilà, parce que les tempi chef d'orchestre ne lui convenaient pas. Et la direction du théâtre, bien évidemment, s'est inclinée. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passerait. Autre russe, en 1964, dont Serge, je pense que tu me dis l'avoir entendu, c'était Ivan Petrov.
Ivan Petrov, c'était le seul à chanter russe. Tout le reste, y compris le chœur, chantait en français,
français.
Autour de lui.
Et ensuite, on a eu le grand bulgare, le grand Boris bulgare, qui était Boris Christophe, par deux fois, en 53 et en 55. En juin 98, Nicolas Joël, pour la mise en scène, et Michel Plasson à la direction musicale, signe une reprise de ce Boris dans la version de 1869, c'est-à-dire la version dite « initiale ». Et c'est José Van Damme qui incarne le Boris. Et ce spectacle sera repris, donc, comme nous disions en préalable, en 2016, sous la direction de Bernard Kontarski. Et là, cette fois, c'est Julian Konstantinov qui revêtira la pelisse du tsar assassin.
Voilà pour le regard dans le rétroviseur.
Voilà, alors, ça,
on en arrive
du rétroviseur
à la nouvelle production de 2023, donc mise en scène par Olivier Py.
Alors, nous ne cachons pas
derrière. C'est pas une première au Capitole pour Olivier Py, hein, puisque Christophe Christie, il y a une confiance mutuelle depuis déjà quelques années.
Il y a, oui, c'est Gioconda et le dialogue des Carmélites. Deux spectacles très différents.
Oui.
Un excellent souvenir.
Alors, est-ce
du
que,
dialogue. Hein.
Bien sûr, qui n'avait pas été créé à Toulouse. Mais bon,
non, mais c'est...
Est-ce qu'il en rêvait depuis longtemps de ce Boris Godounov, Olivier Py?
Alors, Olivier Py a eu un peu de mal avec le répertoire russe. Il s'y est mis très tard pour une bonne raison. Il adore en tant que spectateur, parce que comme il m'a dit, je ne parle pas le russe.
Ah oui, voilà. Donc il a du mal.
Et c'est le répertoire russe, je n'ai fait qu'une chose jusqu'à présent, c'est de la Kovanchina. Et vraiment, j'appréhendais beaucoup parce que je ne parle pas le russe. Voilà. Et c'est le répertoire russe, c'est le seul opéra Kovanchina et Boris que j'aurais monté sans comprendre la langue originale. Voilà.
Oui.
Et voilà pourquoi il a mis
du temps à y venir.
Un peu de temps. Bon, alors nous connaissons ce metteur en scène et très clairement, il peut être clivant.
Il est, tout le monde le sait. Et pas seulement l'opéra, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, lorsqu'il a commencé, c'est une coproduction avec le théâtre des Champs-Élysées, où ce sera repris au début de l'année prochaine. Donc, lorsque Christophe Grissi lui a proposé, bon, il a dit oui, mais c'était il y a 2 ans et demi à peu près. Et donc, au milieu de leur travail, est arrivé, ce que tout le monde sait malheureusement, l'invasion de l'Ukraine. Et donc, Olivier Py me disait que, évidemment, ça a un peu heurté le travail qu'ils avaient déjà accompli avec Pierre-André Weiss, qui est son complice de toujours
pour les décors et costumes.
Ils travaillent ensemble depuis 35 ans. Alors, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas pour spoiler la production, parce que je pense que tel qu'on va la voir, on ne peut même pas l'imaginer. Son concept, c'est dire que le problème, l'histoire se répète. Donc, il va y avoir une partie de la production qui va nous montrer la Russie des tsars, l'autre, la Russie soviétique, et enfin, la Russie de Poutine. Il me l'a exprimé comme ça. Donc, je pense sur la risque de bousculer peut-être quelques sensibilités.
Très probablement.
Mais je lui fais confiance pour avoir fait quelque chose, non pas militant, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, mais quelque chose d'intelligent. Voilà. C'est Andris Poga qui est
On le connaît bien parce qu'on l'a vu diriger l'Orchestre du Capitole à plusieurs
reprises.
Très bien,
d'ailleurs. Hein.
Très bon chef, très apprécié des musiciens.
Ouais. Absolument. Alors, vous le savez, c'était Mathias Görne qui devait prendre le rôle pour la première fois. Bon. Malheureusement, Mathias Görne doit subir une intervention chirurgicale et dont il n'a pas voulu s'engager
risque,
en disant « bon,
si
moi
pas
ça dépend, c'est, si, sinon, si tout se passe bien, je peux, mais si ce n'est pas
risque.
Le cas, voilà ». Donc, il a été obligé d'annuler et il est remplacé par un membre éminent de la troupe de l'opéra de Hambourg, Alexander Roslavets. C'est un Biélorusse qui ne vit pas en Russie. Il vit en Allemagne et donc...
Ça facilite un peu les choses compte tenu du contexte.
Lorsqu'il a vu la proposition scénique d'Olivier Py, il a dit « moi je peux faire ça, c'est pas un problème
ouais. ».
Donc nous allons découvrir Alexander Roslavets. Alors en fait, il a chanté Boris déjà, sauf c'est le Boris de Lady Margaret de Mzins.
Ah oui, c'est la même chose.
Ce qui n'a rien à voir. Mais il a un Boris à son répertoire et il a déjà chanté Boris Godounov, mais c'était le rôle de Varlam.
Il va chanter dans sa langue.
Le rôle de Varlam, pas neutre non plus. Mais donc, ça sera... Je pense que toute la distribution de Boris est en prise de rôle, absolument tout, y compris lui. Donc, on va avoir le premier Pimène de Roberto Scandiuzzi, qu'on ne présente plus ici.
Oui, on commence à le connaître au Capitole.
Et le faux Dimitri d'Airem Hernandez, qu'on a déjà entendu. Et le Chouisky de Marius Brienchou, le ténor qu'on a déjà entendu également, et le Tchelkalov de Mikhail Timoshenko, que l'on connaît bien et que l'on aime beaucoup.
Et qui est formidable, oui.
Jeune chanteur
russe pour le coup, mais qui vit en France depuis longtemps.
Voilà. Je pense personnellement, et pour terminer, j'ai dit qu'il y aura un avant et un après pour le Théâtre du Capitole de ce Boris Godounov.
Et on aura les débuts aussi en Fiodor de Victoire Bunel, une chanteuse qu'on connaît aussi, et qui donc va prendre le rôle aussi pour la première fois. Je voulais citer Fabien Yon qui va faire Missile, qu'on avait vu avec Les Passions de Montauban dans Daphnis et Alcimadur, où il tenait le rôle de Jeannet.
Voilà, le frère.
Un jeune ténor français, excellent lui aussi. Bon voilà, il y a beaucoup d'intérêt dans cette production. On est tous très curieux de découvrir ça, à la fois la mise en scène d'Olivier Py et puis tous ces chanteurs, toutes ces prises de rôle. On va écouter un extrait de Boris Godounov dans une version concert donnée par l'Orchestre National du Capitole il y a près de 10 ans sous la direction de Tougan Sokiev. Extrait de Boris Godounov dans une version concert donnée par l'Orchestre du Capitole en février 2014 à la Lograin sous la direction de Tougan Sokiev avec le chœur Orpheon Donostiara, la nouvelle production de l'opéra de Moussorski dans une mise en scène d'Olivier Py est à découvrir du 24 novembre au 3 décembre à l'Opéra National du Capitole. Il y a 5 représentations les 24, 26 et 29 novembre ainsi que les 1er et 3 décembre. D'autre part, durant ce week-end particulièrement chargé, il y a aussi le ciné-concert Buster Keaton que donne une nouvelle fois l'Orchestre du Capitole à la Halle aux Grins ce vendredi 24 à 20h, puis dimanche 26 à 16h. Il s'agit du film qui a pour titre « Sportif par amour », le titre original étant « College ». Serge, ce ciné-concert est dirigé par Timothy Brock, un Américain qui a également signé la musique.
Et oui, exactement. Donc, il a déjà dirigé l'orchestre, hein, mais là, vraiment, un ciné-concert avec une durée du film d'1h10, de Buster Keaton, le grand rival en quelque sorte de Charlie Chaplin.
Dans un genre différent tout de même.
Mais un immense
acteur
et cinéaste.
Fan inconditionnel formidable. Des films de Buster
Donc,
Keaton.
La réalisation du film d'ailleurs est de Buster Keaton et James Horn. Voilà les deux réalisateurs et la musique de Timothy Brock. Donc,
qui s'est spécialisé un peu dans ces musiques d'accompagnement de films muets burlesques américains des années 20-30.
Voilà. Donc ça sera donné à la Halle aux Grins d'ailleurs.
Oui.
Et ça sera donné deux fois, le 24 novembre à 20h et le 26 novembre à 16h.
Voilà, un des derniers films de Buster Keaton, tourné en 1927. Il y aura ensuite Steamboat Bill Jr., Le Caméraman, et puis Spike Marriage en 1929. Puis ce sera fini, après c'est l'arrivée du parlant.
Et
il va disparaître malheureusement. Timothy Brock a composé aussi justement une musique pour accompagner le film One Week de Buster Keaton, connu en France sous le titre La Maison Démontable. En voici un extrait. Extrait de la musique composée par Timothy Brock pour accompagner le film One Week de Buster Keaton, en français La Maison Démontable. Pour vous donner une idée de ce que vous allez entendre vendredi à 20h puis dimanche à 16h avec l'Orchestre National du Capitole lors de la projection de Sportif par amour à la Halle aux Grins. Et puis enfin ce lundi 27 novembre, il y a un autre rendez-vous encore avec les musiciens de l'Orchestre du Capitole à Saint-Pierre-des-Cuisines, celui-ci proposé par les Clés de Saint-Pierre. Le programme est intitulé « Made in England » et pour cause, puisqu'on n'y trouve que des compositeurs britanniques. Et bien Serge va nous présenter les musiciens qui vont se produire ce soir-là et les œuvres qu'ils vont y jouer. Il y en a 4.
Oui, 4 œuvres, mais il y aura 5 musiciens de l'orchestre avec un hautbois, celui de Chi-Wen Cheng, Bobby Cheng, qui préfère qu'on l'appelle Bobby Cheng d'ailleurs, et puis les membres d'un quatuor à cordes avec Vitaly Raskazov et Roman Soloroy au violon, puis Joyce Blanco-Lewis à l'alto et Aurore Dassès au violoncelle. Et donc, il s'agira alors d'un programme avec des compositeurs, certains déjà assez connus comme Edward Elgar, Sir Edward Elgar, bon, avec son quatuor à cordes en mi mineur, et puis une œuvre de Ralph Vaughan Williams, qu'également on a entendu en concert ici à Toulouse, avec également un quatuor à cordes, son numéro 2, mais il y a deux autres compositeurs beaucoup moins connus, comme Ernest John Moran, qui est un fils d'un pasteur irlandais et dont les musiciens joueront le Fantasy Quartet pour hautbois, violon, alto, violoncelle. Et enfin, les cinq seront réunis pour un quintet pour hautbois et quatuor d'Arthur Bliss, autre compositeur assez peu connu, assez peu joué.
Tellement peu connu, moi je ne le connaissais pas du tout.
Ça sera l'occasion de découvrir donc ses œuvres avec les cinq musiciens de l'orchestre qui, je crois, s'y donneront à fond parce qu'ils sont absolument passionnés par ce répertoire.
Oui, alors c'est drôle parce que c'est un programme entièrement anglais, britannique, oui. Mais les musiciens sont de Hong Kong, de Russie, du Brésil, de Belgique, et il y a une Française tout de même.
Oui, quand même.
C'est
hein.
Très, très international. Le quatuor à cordes en mi mineur, opus 83, d'Edward Elgar, est une très belle pièce. Vous allez pouvoir le constater maintenant en écoutant son premier mouvement, Allegro Moderato. Le premier mouvement Allegro Moderato du quatuor à cordes en mi mineur, opus 83 d'Edward Elgar, l'une des quatre pièces au programme du concert Made in England du 27 novembre que donnent les musiciens des Clés de Saint-Pierre. C'est donc ce lundi à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. La billetterie est en ligne à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Eh bien, il est temps de conclure ce 249e numéro de Mélomanie. Et je remercie tout d'abord mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert de l'avoir co-animé avec moi. Je rappelle que Boris Godounov, l'opéra de Moussorski, est donné dans une nouvelle production à l'Opéra National du Capitole du 24 novembre au 3 décembre dans la mise en scène d'Olivier Py. Il y a 5 représentations les 24, 26 et 29 novembre, ainsi que les 1er et 3 décembre. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. concernant le ciné-concert Buster Keaton, proposé par l'Orchestre National du Capitole le vendredi 24 novembre à 20h et le dimanche 26 à 16h à la Halle au Grain, sous la direction de Timothy Brock. Les réservations et l'achat des places en ligne se font sur le site www.onct.toulouse.fr. Et je rappelle enfin que la 8e édition du Festival Musique au Palais a lieu ce week-end des 25 et 26 novembre, avec deux après-midi de concerts dédiés à la musique de la Belle Époque. Pour réserver et acheter vos places en ligne, je vous invite à vous connecter au site www.musiqueaupalais.org, où vous trouverez également le détail de la programmation. Tous mes remerciements aussi à Christophe Aubry, le réalisateur de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à tous nos auditeurs de rester fidèles à notre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine musicale.